Aujourd'hui, à la Vie est belle version express, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec la surprenante et mordante Anne-France Goldwater. En passant, si vous voulez voir la version intégrale, hein, c'est disponible également sur cette même plateforme. Si vous aimez les phrases un peu surprenantes qui sortent à l'intérieur de cette balado, comme dans toutes les autres d'ailleurs, on a lancé une boutique souvenirs où vous allez pouvoir vous procurer des t-shirts, des gilets, des tasses et compagnie avec des phrases choc qui ont été entendues. Allez sur boutic.ca, boutique.ca, et vous allez pouvoir vous acheter des affaires avec des phrases. Les gens vont dire « Ouais, t'as pris ça où? Là, je l'ai entendu à La Vie est belle, puis je me suis acheté un gilet, que veux-tu? » Bonne rencontre.
Balado, épisode 36. Anne-France Goldwater.
3, 2, 1.
Ces moments où vous touchez l'âme des gens sont beaucoup plus satisfaisantes que même les moments dramatiques en salle d'audience où je reçois un jugement puis j'ai gagné, j'ai vaincu. Il y a un plaisir à vaincre, mais le sentiment de rejoindre une autre personne, de toucher son âme, c'est quelque chose qui reste avec vous, vous donne des bons souvenirs pendant des années longues.
Mon nom est François Charron. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Anne-France Goldwater, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on dit Anne-France, on dit maître, qu'est-ce qu'on dit?
Toutes sortes de choses qu'on ne pourrait pas répéter en public. Hé, toi! Anne-France, Anne-France, comme les Français disent, Anne-France.
La tradition est de boire des bulles, mais on m'a dit, ouais, Anne-France, ça ne boit pas.
C'est vrai.
Donc, c'est des bulles de pommes.
Ah, OK, ça va. Pourriez-vous m'imaginer désinhibé? Ça serait fatal.
C'est vrai qu'à jeun, c'est déjà pas pire, fait que, hein?
Chaude. Trop dangereux.
Hey, on a des images, là, soudainement. La première question était par rapport à votre mari. Puis là, c'est gênant parce qu'il est juste derrière vous. Vous l'avez traîné.
Ah oui, oui, je le traîne toujours.
Et en arrivant, vous avez dit, lui, là, il s'appelle Chéri. Son nom, ouais. C'est Chéri.
C'est son prénom, oui, officiel.
Mais à toutes les fois qu'on regarde, qu'on fait un peu de recherche, cheers, Anne-France. À toutes les fois qu'on cheers. Fait un peu, ouais, à travers le plexiglas, c'est tellement fun. À toutes les fois qu'on fait des recherches, ce qui ressort partout, c'est Dieu que vous avez l'air d'être en amour encore.
C'est bizarre, hein?
Hein?
Je ne comprends pas pourquoi, mais on dirait que c'est un voleur. Il est venu, il m'a
il a volé mon cœur,
mon âme, mes tripes, mon cerveau, mon corps. Il m'a écrit une note d'amour au début de notre relation. Il a dit, et puis il a écrit en espagnol, puis il m'a averti. Je t'ai averti de faire attention parce que j'étais pour te voler ton cœur, ton âme et ton corps. Et puis j'ai gardé, c'est une toute petite note sur une petite feuille. Et le cadeau valait peut-être 5 sous de papier et d'encre, pas plus. Mais le sentiment exprimé, c'est quelque chose. Mais ça, c'est un caractère.
C'est beau de faire dire ça. Je vais voler ton cœur, ton âme, ton corps. Tu fais, hey, dis où est-ce que je signe? Oui.
Yeah, ben, en
ça,
plein
c'est
ça.
Un beau contrat. Là.
Mais en effet, mais drôlement, pour moi, ça vaut beaucoup plus que tous les vœux de mariage à l'église, à la mairie, peu importe, parce que ça reflète les vrais sentiments de quelqu'un qui vient d'un peuple, les Latinos, c'est un peuple sentimental, hein. Il y a une expression en espagnol, los latinos pueden ser pobres en dinero, pero son ricos en sentimientos. Donc, ils sont pauvres en argent, mais riches en sentiments. Et ça, c'est vrai.
Vous dites dans votre biographie, papa était pas mal absent, je me suis un peu, de ce qu'on en comprend, élevé seul, grand-maman était dans le décor, on me donnait de l'argent, je me gérais. Où était la DPJ quasiment à l'époque, là?
C'est une question que je me suis posée, parce que là, surtout, c'était à l'époque où toutes les mamans étaient à la maison.
Mm-hmm. Moi, oui, on était la génération clé dans le cou qui nous appelait.
Oui.
Après l'école, on rentrait à la maison.
Non, pas encore rendu là. Les mamans étaient à la maison, on n'avait pas la clé dans le cou parce qu'il y avait quelqu'un là au foyer. Mais ma grand-mère travaillait, c'était une femme d'affaires, elle faisait, à l'âge qu'elle avait, où t'es rendue, elle faisait beaucoup de bénévolat dans la communauté juive. Et puis, il y a plein de photos avec elle, avec des Pierre-Éliott Trudeau, puis des gens chrétiens.
You know,
couvre toute une période de temps. Mais il n'y avait personne là vraiment pour moi. Alors, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Parce que quand on est enfant, on ne sait pas que notre enfance est différente de l'enfance des autres.
Mm-hmm. Ouais.
Moi, je ne savais même pas que je n'avais pas de mère. C'est juste, la vie était comme ça. À 10 ans, je devais acheter la bouffe pour la maison.
Une vie, c'est papa, grand-maman, je fais les commissions moi-même comme une grande, c'est normal.
Je me prépare mes repas pour moi-même, je me baigne moi-même quand je me baigne, parce qu'il n'y a personne pour veiller à ça, il n'y a personne pour faire la buanderie. C'était assez étrange.
Et comment, avec une enfance comme ça, on se ramasse dans le droit chemin, parce que les dérapes auraient été possibles. À 16 ans, vous entrez à McGill.
Hey, Imaginez ça comme dérapage.
Non, mais je disais juste avant, moi, je me faisais une fierté de dire que je suis rentré au cégep à 15 ans. Mais là, à côté de vous, je ne suis rien, absolument pas. Là.
j'arrive deuxième.
Mais hey, non, mais 16 ans, c'est pas rien, là. À l'université, puis McGill,
en plus. J'avais 17 ans, parce que j'étais à Dawson, 15 ans et 16 ans. À McGill, j'étais à la faculté de droit, j'avais 17 ans. Alors, 17, 18, 19... Right? Et là, école du barreau à 20 ans. Alors, j'ai fini mon barreau à 20 ans. Parce que j'étais en sciences. Ma moyenne en sciences, 93% en sciences dans un programme enrichi en maths.
Donc, le profil parfait pour rentrer en médecine en fast track, là.
Parfait. Mais j'étais acceptée à un endroit, je voulais pas aller.
Parce qu'on veut pas être comme papa, puis on veut pas être comme maman dans la vie.
Mais non, puis c'est pas la science, c'est de la merde. Urgh.
Ouais, parce que vous êtes une geek.
Yeah.
Vous êtes une geek, vous tripez lire sur de la science.
Je suis sur Reddit, 24 heures sur 24. Je lis les revues à CNET. Les logiciels qui gèrent mon bureau, je les écris moi-même. Je les développe moi-même régulièrement.
Qui n'est pas choisi, là, vous codez.
Je code, oui. Ouais. C'est pas difficile, il faut juste avoir une tête pour ça.
Qu'est-ce que vous faites en droit?
Parfois, je me pose la question.
Même encore aujourd'hui.
Oh. Depuis qu'on a eu le vaccin, par exemple, vaccin Pfizer et Moderna, je commence à lire intensément sur les études cliniques, sur les êtres humains, sur l'utilisation de cette nouvelle technologie de messenger RNA pour vaincre toutes sortes de maladies, comme le cancer, pour te faire vacciner contre ton propre cancer. Les études sont bien techniques, mais d'un seul coup, grâce à la pandémie, mais c'est le côté optimiste qu'il faut avoir, c'est l'idée de nombreuses maladies qu'on va pouvoir vaincre dans une très courte période de temps à cause de la technologie qui a été développée pour ces vaccins-là. C'est époustouflant. C'est pour des gens qui ont intérêt, qui sont geeks et qui aimeraient lire ce genre d'études, vous allez mourir de joie.
C'est très drôle parce que là, je vous regarde et tout ce que j'ai, c'est la phrase un peu ridicule dans ma tête, c'est « J'ai fait mes recherches, Anne-France Goldwater.
» À peu près ça.
Mais tu sais, présentement, de faire les recherches, il n'y a pas bonne presse, là.
Ouais, c'est bizarre,
j'ai fait mes recherches.
Non, mais c'est quand même...
Docteur Google.
Yeah, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours pensé on vit dans une autre ère, et ça depuis maintenant plus que 20 ans, parce que quand vous les cherchez à savoir... Qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai en Yougoslavie à l'époque? Bon, là, il y a tant de ressources qu'on peut... En Iran, qu'est-ce qui est arrivé en Iran? Et on veut lire sur telle ou telle insurrection. Il y a tellement de matériel sur l'Internet, tu lis de plusieurs sources et tu es capable de te faire une tête sur la réalité, right? C'est comme lire La Presse, Le Devoir et Journal de Montréal. On lit les trois journaux, les articles sont complètement différents. Mais vous êtes, si vous êtes Québécois, comme je suis Québécoise, vous êtes capable... de savoir qu'est-ce qui est arrivé en faisant un genre de juste moyenne des trois journaux.
On met les trois dans le blender, puis on a le bon cocktail.
À peu près, oui. Dans le temps, j'ajoutais à Allopolis, bien entendu, mais c'était une autre perspective. Pas nécessairement une fausse perspective,
non,
juste une autre.
Absolument.
Alors, mais c'est un peu la même chose. Et j'ai toujours pensé, mon Dieu, comment les gens vont être de plus en plus intelligents. Parce que le fait qu'on a autant de matériel à lire, on va être plus et plus capable de développer une bonne perspective. Mais au contraire, c'est le contraire qui arrive. Les gens sont menés à de plus en plus rejeter des autres perspectives, épouser un point de vue et oublier toute logique, rationalité, et oublier tout sens d'analyse. Et ça, c'est un problème de notre système d'éducation.
Fascinant parce que la deuxième motivation qui ressort dans votre Nova, c'est l'idéologie. À 90%.
Wow.
Fait que l'unité, la moralité, avoir un système de valeurs, une cause, un code d'éthique, il y a des choses qui sont inébranlables chez vous, là.
Partie de ça, c'est l'influence de mon père. Mon père était comme ça. Il a toujours dit que quand on devient avocat, on est tenu à notre standard de comportement, d'attitude et tout. Je me souviens une fois quand le barreau était fâché contre moi que j'avais dit à un collègue de manger la merde. J'étais super anglophone à l'époque.
Il manquait le « de ».
Il manquait le « de » puis la « marde ».
Oui, j'ai, un « arde ».
Oui, j'ai, oh oui. Génard Chevet qui m'a déjà dit de manger de la marde, mais il est mort, c'est pas grave. Bon, mais, et puis j'étais entrevuée, je me souviens plus, peut-être c'est pas Paul Lude, et puis il a trouvé ça drôle que le barreau s'en prenait à moi d'avoir dit manger de la merde. Manger de merde, pardon. Non, j'ai dit manger la merde. Ouais. Manger la merde. Ça, c'est anglophone. Mm-hmm. Manger la merde. C'est très direct.
Mais dites-moi, ça a quasiment l'air d'un plat.
Yeah, c'était l'image dans ma tête. Alors, j'ai dit, mais non, j'ai expliqué, ben non, un avocat n'a pas le droit de dire ces choses pour une très bonne raison. Si on n'est pas capable de faire abstraction des sentiments de nos clients puis mener le discours à un autre niveau, on ne rend pas service à la cliente. C'est un échec chez l'avocat. Alors, lui était très étonné que je prenais cette attitude-là. Hein? Mais c'est la...
Même contre vous?
Même contre moi-même, publiquement, imaginez. Ouais. Je le répète aujourd'hui, ça ne me dérange pas.
Ça vous aurait pris un bon avocat pour vous.
Pour me ouais, défendre, ouais. En plein ça. Mais c'est mon père qui me l'a enseigné. Il dit, on doit donner le standard. Quand on est un avocat, on représente le droit.
J'ai l'impression que vous avez le goût de marquer, laisser une trace.
Oui, oh oui.
T'sais, il ne faut pas que le passage sur Terre d'Anne-France Goldwater ait servi à rien.
Mon fils et moi, on avait une discussion. On s'est dit, est-ce que ça ne fait pas un peu la névrose de notre communauté? On a fait la blague, nous, en tant que Juifs. Est-ce qu'on n'est pas névrosé, anxieux en tout temps? C'est une blague entre nous, parce que mon fils est comme moi. Qu'on sent qu'on a ce besoin de marquer notre passage. On ne peut pas juste mener une vie normale. Il faut faire quelque chose. Il faut accomplir quelque chose. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Et il m'a fait rire, le fiston. Mais c'est vrai, moi, je ne peux pas mourir.
Lui est avocat en passant aussi.
Il est avocat en passant. Ma fille psychologue, c'est bon. Elle a voulu prendre soin de sa maman.
Elle
nous soigne.
Elle gêne, c'est ça, elle vous soigne.
Exactement. Elle gère notre santé mentale. Mais moi, je ne peux pas mourir avant de gagner le cas des conjoints de fait et le cas de pension alimentaire pour enfants au Québec. Je ne peux pas. Je vais faire une hémorragie si je ne réussis pas ces deux causes. Je réussis ces deux, comme je réussis pour, avec Maître Dubé, mon partenaire, pour les couples de même sexe. Mais une fois réussi, il fallait passer au prochain défi, les conjoints de fer, et prochain défi, les pensions alimentaires pour enfants. Et je ne peux pas abandonner espoir jusque-là. Une fois que j'aurai accompli ça pour la société québécoise, je peux mourir satisfaite. Et moi, je suis tellement fière de cette évolution. Je sens que j'ai eu un rôle là-dedans, Marie-Hélène et moi, mon partenaire, et mes enfants sont fiers de moi, que j'ai fait ce travail-là.
Vous dites de vous-même, je suis une boys, hein? je suis un peu un garçon, j'aime la science-fiction, les séries fantastiques, je trippe sur les mathématiques, on a parlé de l'informatique, les voitures. En quoi ça vous caractérise, en quoi vous aurez eu un parcours différent parce que vous êtes une boys?
Well, c'est différent par rapport à la vie intime, bien entendu, parce que je menais tout ce côté de ma vie comme si j'étais un gars. Je m'en fichais de qu'est-ce que les gens pensaient de moi. Est-ce que j'ai trop d'amants, pas assez? Like, comme qu'on dit, moi, j'ai la mort. J'ai jamais senti que je devais être inhibée à cause des attentes du comportement des femmes. Je me rappelle, il y avait une avocate très gentille aussi au barreau qui m'avait dit une fois, « Mais Anne-France, pourquoi tu ne pourrais pas être plus ladylike, genre élégant? » Et bêtement, j'ai répondu, « Mais parce que je suis une avocate. » Être avocat, là, à part le fait qu'en français, il fallait que je dise avocate, mais ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de genre, ça n'a pas... Il faut être fonceur, il faut être direct, ça n'a... Je ne vois pas pourquoi il doit avoir des comportements sexués à mon titre d'avocat, n'est-ce pas?
Oui.
Ça, déjà, c'est une chose. L'autre chose, ça commence à affecter ma vie. Et certes, je n'avais pas peur de commencer mon propre bureau. Je n'ai pas pris l'approche plus fille d'aller travailler pour le gouvernement, un certain temps de vivre un salaire, avoir des congés maternité. Je dis non, c'est
mais
le bureau.
Mais papa avocat, il n'a pas laissé plein d'argent?
Et il était omnipraticien tout seul. Alors, et puis il était assez impoli pour mourir en janvier. Donc, pour des raisons fiscales, ça a fait en sorte que j'ai dû opérer le bureau toute l'année, mais mettre tous les revenus en janvier, j'avais pas droit de déduire les dépenses de février à décembre. S'il y a un comptable qui nous écoute, il va comprendre quelle catastrophe.
Absolument.
J'ai pleuré des chaudes larmes avec le fisc. J'ai dit, j'essaie pas de vous frauder. Mais je pouvais pas laisser tomber. Mon père n'avait que 57 ans, il était plus jeune que moi aujourd'hui. J'avais des clients, il y avait comme une douzaine de clients dans la semaine, deux semaines à venir avec des procès. Donc, il fallait les accueillir, il fallait engager un avocat, il fallait payer une adjointe, il fallait payer le loyer. Toutes ces dépenses n'étaient déductibles de rien.
Non, et vous étiez sur le bord d'avoir vos papiers d'avocat, fait que vous pouviez même pas rentrer au bureau pour le gérer.
J'ai demandé la permission du barreau. Alors, j'étais enceinte jusque là. Je suis allée au barreau, je dis, écoutez, j'ai déjà écrit 4 examens sur 6 du barreau. Ma moyenne, mes notes sont tellement élevées que je n'ai qu'à respirer et je vais avoir mon permis parce que j'avais des notes très, très fortes. Et puis, j'avais une note qui était, par exemple, j'avais une 94%, j'ai fait une plainte, ils l'ont augmenté à 97%. J'ai déposé une autre plainte, ils m'ont refusé le 100%. Ça, c'est l'examen après la mort de mon père. J'ai pleuré pendant peut-être 2 semaines qu'ils m'ont pas donné le 100%. Jusqu'à ce jour, je suis traumatisée. Pas grave.
Pour le 1%, parce que vous l'aviez.
Je savais que j'avais un 100%. Mon Dieu, je savais que ça n'a pas commencé bien ma vie. Anyway, mais là, j'ai demandé leur permission. J'ai dit, aidez-moi, je viens de perdre mon père. Ma mère aussi était avocate. N'importe quel appui que je puisse garder le bureau de mon père ouvert. Puis ils m'ont dit, si je mets le pied dans le bureau de mon père, ils vont pas me donner un permis d'exercer. Ils ont refusé toute aide, tout appui.
Quand même.
Anyways, mais c'est là tout l'argent a dû disparaître.
Bon, on n'a pas le choix de jaser de chien avec vous, parce que c'est un sujet qui vous passionne. En arrivant ici, moi, j'ai un petit lévrier italien. Là. Il est gros de même. Là. En rentrant, presque, tu sais, juste vraiment comprendre la priorité, tu sais, c'est à peine si vous nous avez dit bonjour. Et puis là,
Je ne vous ai pas dit bonjour, j'ai commencé avec
le chien. Et vraiment, vous jasiez en chien à mon chien.
Mais oui.
Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il répondait?
Il n'était pas d'accord que j'entre. Il trouvait que j'ai fait comme une intro par effraction, selon lui. Et puis il grognait. C'était pénible. Alors, j'ai baissé ma tête, j'ai couvert mon visage avec mes mains et j'ai fait le yip, 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 yip. Genre, plus dans sa langue à lui que maintenant pour l'enregistrement. Oh oui. Pour qu'il comprenne que je n'étais pas là pour le menacer. Et tranquillement, ça l'a soulagé. Il fallait que je répète la chose 2-3 fois avant qu'ils me comprennent, mais j'ai pas voulu qu'ils se sentent menacés. On ignore souvent qu'on entre chez les autres, les enfants et les chiens. Mais pour un enfant ou un chien, ça, c'est vous êtes dans son territoire. C'est comme si vous avez eu une fille ici, j'aurais adressé votre fils avant vous, par respect pour l'enfant, qu'il comprenne que je suis pas là pour voler papa, par exemple.
Je comprends. Là, à la maison, il y a 2 chiens. Il y a 5!
On a 2 maisons qu'on a combinées. Okay. C'est une semi-détachée. J'ai acheté de l'autre côté, donc ça fait 2 maisons. Sérieux.
Mais les 2 que j'ai pu voir, c'est comme votre couple de conjoints de fait là, à la maison. Mr. Spot?
Oui. Mr. Spot,
Mr. Spot.
Il est très sévère, lui.
Il vient d'où, ce chien-là?
Il vient quelque part de l'ouest extrême de Montréal. Il était dans un refuge, je ne comprends pas pourquoi. Il était handicapé, il avait les jambes soit cassées ou soit qu'il a souffert lors de l'accouchement de ce bébé, de ce chiot, ça fait casser ses jambes. Et au moment où je l'avais rencontré lors d'une manif pour le droit des chiens de type pitbull, et là, j'ai vu qu'il était handicapé. J'ai dit aux gens de refuge, écoutez, contactez-moi, je peux l'aider à chercher une chirurgie, peut-être. J'ai eu un contact, à un moment donné, ils étaient pour l'euthanasier parce qu'il n'allait pas bien, il mangeait pas et tout. J'ai dû envoyer quelqu'un loin dans l'ouest, plus loin que Hudson, pour le chercher, l'amener aux soins intensifs à l'hôpital vétérinaire de la Rive-Sud, l'hôpital que j'adore. L'hôpital vétérinaire de la Rive-Sud, ils m'ont fait un engagement. Si moi je tombe malade, l'ambulance m'amène là. Où là, il y a des docteurs et des infirmières, des techniciens qui vont prendre soin de vous, puis pas vous laisser là dormir trempé dans votre
rue. Je vais être sur la même liste.
Non, sérieux, la qualité de soins est quelque chose. Anyways, ils ont pris soin de lui.
Et les locaux sont super beaux. Ça donne que j'ai fait un U-turn dans leur stationnement le week-end dernier.
Juste par hasard.
Drôle de hasard.
Alors, ils ont pris soin de lui. Il a eu plusieurs chirurgies. On a fait le maximum qu'on peut. Il fait de la physiothérapie 3 fois par semaine jusqu'à ce jour pour maintenir sa force musculaire parce qu'il est plus ou moins paralysé. Il n'a pas de sensation dans les jambes en arrière.
Vous répondez quoi à ceux qui disent « Voyons donc, mais on ne peut pas mettre autant d'argent sur un chien. » Je sais que je l'entends. Il y a des gens qui entendent la liste, le dire à toutes les semaines, il est là, il y a des traitements. Puis ce sujet-là fait réagir de façon forte et très émotive une partie de la population. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là?
Bon, en ce cas-là, je ne vais pas leur dire combien ça a coûté les derniers mois de vie de Sandrine, mon labrador noir qui était francophone, albertaine et noire, triple minorité. Okay? Elle répondait juste à des commandes en français. Et j'adorais cette chienne-là. Puis elle était, selon elle, j'étais son épouse. Elle a décidé. Elle m'a épousée de force.
Okay.
Genre.
Ouais.
Conjoint de fait. Bon. Mm-hmm. Alors, et quand elle a eu une maladie catastrophique de ses reins, cancer, opération, des soins à New York, j'étais pas capable de vivre pendant 3 mois. Et puis à la fin, j'ai dû mettre l'euthanasie, me laisser aller pour qu'elle ne souffre pas. J'étais prête à tout faire dans la mesure où elle ne souffrait pas outre mesure. Alors, pourquoi est-ce qu'on dépense cet argent? Ça fait des conversations chaudes à la maison parce que mon fils, ça l'a dérangé beaucoup que je voulais mettre l'argent dans les chiens comme ça. Et tu peux donner à des charités. Je dis, je donne à des charités, plein de charités. Tu pourrais aider d'autres chiens. Je dis, j'aide d'autres chiens. Vous savez, j'ai aidé plein de chiens dans ma vie.
Ouais, puis quand on vous suit sur Facebook, on va régulièrement vous lancer des appels. Tel chien, on ramasse des sous, embarqué.
Et je vais toujours commencer avec mon propre don et je fais l'appel aux autres parce que la communauté, on doit s'entraider. Alors, pourquoi je fais ça? J'aime mes chiens. J'ai une peur de la mort qui est très profonde, il faut savoir quand même. J'ai perdu mes 2 parents et l'année avant que mon père ne meure, j'ai perdu mes 2 oncles. Alors, la mort me prend en grippe. Et j'ai besoin de savoir que j'ai tout fait pour l'animal que j'ai adopté. C'est pas le choix de l'animal de venir vivre chez moi. C'est mon choix de l'adopter.
Donc, c'est une responsabilité.
C'est une responsabilité fondamentale.
On retourne à la biologie, la moralité, les valeurs. J'ai pris le chien, je peux pas l'abandonner. Là.
Et c'est drôle parce que c'est à un point, c'est beaucoup plus difficile de prendre les décisions pour l'animal parce que lui ne peut pas prendre décision pour lui-même, mais on donne plus de respect à l'animal qu'à l'être humain. Parce qu'avec l'animal, on est capable, plus froidement, il y a plein d'émotions, mais disons avec plus de rationalité, de dire on ne peut pas aller plus loin que ça dans les soins à prodiguer parce qu'on ne veut pas faire souffrir l'animal.
Mais pourquoi aller dans cette catégorie de chiens-là?
Quelle catégorie?
Le pitbull ou... la question, c'est...
Il y a un préjugé.
Oui, non, mais il y a un préjugé clair. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais on peut pas avoir un lion, on peut pas avoir un alligator comme animal de compagnie. Pourquoi? Ah non, mais je mets la table.
OK, compris.
Pour avoir la réponse. Là. Mais pourquoi on accepterait que des humains aient des animaux violents à potentiel? Je mets la table, je veux la réponse.
Got it. OK, les chiens de type pitbull.
Chiens de type pitbull.
Non, pas des comportements.
On a un track record qui, quand on regarde, est pas, on voit souvent aux informations, un enfant qui est attaqué, la voisine qui était attaquée, et on se dit, ben, pourquoi on accepterait des chiens comme ça alors qu'on peut pas avoir un lion, on peut pas avoir un alligator comme animal de compagnie? Et vous débarquez dans le dossier et vous devenez la « moi, je veux défendre ça ».
Je pourrais vous donner la meilleure raison. Quand j'avais 28 ans, j'étais connue déjà partout à l'extérieur de Montréal. Et je me rappelle, j'étais allée quelque part et c'est pas important le district, je me rappelle du district, j'étais vraiment chaleureusement accueillie, puis un des avocats là a dit « Ah, vous êtes un vrai pitbull de droit ». Je suis retournée à mon bureau, j'ai éclaté en sanglots, est-ce qu'on m'a traité de chienne? Ah, mais il faut savoir, quand vous êtes anglophone, vous êtes sensible à tous les commentaires. Hein? Alors, un pitbull de droit, j'ai pensé, un pitbull, un chien, qu'est-ce que ça veut dire, suis chienne, right?
Pourtant, on dit gold fighters souvent.
Yeah, gold fighters, c'est pas pire. Ça fait plus James Bond. C'est moins grave, ça c'est beau. Okay. Mettez-moi à côté de Pierce
Brosnan.
Mais pitbull,
c'est comme dire chienne.
Yeah, c'est comme dire littéralement. Puis les francophones ont problème avec les animaux. Chienne, vache,
cochonne.
Cochonne, c'est pas pire, c'est l'autre signification. Ça, j'ai jamais refusé ça comme appellation. Anyways, bref, mais jusqu'à ce que notre avocat anglophone m'explique, mais quand on vous appelle un avocat pitbull, ça veut dire vous êtes persévérante. Lorsque vous mordez, vous lâchez pas prise. Pour un avocat, c'est un compliment. Alors, j'ai essuyé mes larmes, j'ai dit OK, d'accord. Alors, ça m'est vraiment arrivé. Mm-hmm. Plus tard dans la vie, quand cette bataille commençait avec les chiens de type pitbull, je fais ce que je fais en tout temps, comme j'ai fait avec la pandémie et d'autres événements, et je fais mes recherches, des vraies recherches sur la science. Et j'ai commencé à lire des études, et comme vous avez bien remarqué, sur Google, tout est disponible. Toutes les connaissances de l'historique, de l'humanité.
Tout est là.
Tout est là. Et j'ai commencé à lire des études, et j'ai appris beaucoup de choses. Et la chose la plus importante, il n'y a aucune science entre l'apparence de l'animal, parce que les chiens ont une très grande variabilité morphologique. Ça veut dire, vous pouvez mettre deux chiens ensemble. Les races pures, c'est une chose, mais vous pouvez prendre deux chiens ensemble et ça va faire des chiots qui peuvent ne pas ressembler à aucun des parents.
Oui, okay? C'est vrai.
Alors, la variabilité morphologique de l'apparence est tellement grande que il n'a aucun lien avec les parties d'ADN qui contrôlent, qui déterminent le comportement et le tempérament de l'animal.
OK, donc il ne faut pas interdire ou réglementer des animaux avec leur photo.
Et puis de surcroît, même les spécialistes en chiens sont incapables, quand on parle des races croisées, comme les chiens de type poule, ce n'est pas une race de chien, ils sont incapables de distinguer les chiens de type poule des autres chiens. Ils ne sont pas capables de déterminer, dire « Oh, je pense que ce chien est 60% caniche, 40% labrador. » On peut avoir un chien qui est comme 80% chien de type pitbull, mais qui a une gueule labrador. Certes, moi, au début, j'avais des labradors, j'ai toujours trois labradors, parce que ce sont les chiens les plus canadiens qui existent, ils sont adaptés à notre climat. Et je vais vous dire, certainement, j'ai appris une chose, les chiens de race de type pitbull sont pas faits pour notre climat. C'est pénible pour eux l'hiver. Ils ont pas
le poil ras.
Il faut vraiment les mettre un manteau, puis ils trouvent ça très, très inélégant.
Mais c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas un caniche, fait qu'il veut pas avoir un manteau.
Non, il veut rien savoir de ça. Non.
Sa masculinité,
moi,
même si c'est une femelle, c'est comme no way.
Oui, beaucoup. Impossible. Anyways.
J'ai le pitbull avec le petit manteau, ça marche.
Alors, et certes, mes labradors de race pure, j'ai choisi aussi des chiens qui viennent de Nini, de chiens avec de belles personnalités. Mais quand j'ai fait les recherches également sur les chiens qui ont été formés genre pour être plus violents, comme pour faire la bataille, là, normalement, dans une portée qui peut être 6, 8, 10 chiots, la grande majorité ne sont pas faites pour être agressifs. Et souvent, ils vont réserver juste un chiot dans une portée qui a le potentiel de devenir agressif. Et après, là vient l'environnement. Il faut le dresser pour être agressif. Ça démontre
ça,
à quel point...
Mais demain matin, vous êtes mairesse de Montréal, vous êtes première ministre du Québec, by the way, chose que vous n'excluez pas. Hein.
Pense à ça tous les jours.
Il faut empêcher qu'il y ait des dérapes animales, je vais dire ça comme ça. C'est quoi la loi parfaite? Qu'est-ce que vous faites comme loi pour protéger? Parce que c'est sûr que vous ne voulez pas qu'un enfant se fasse attaquer par n'importe quel animal.
À aucun moment, bien entendu.
Donc, on part de là. Donc, c'est quoi le règlement?
Le règlement, faut davantage viser l'être humain. Il faut trouver une façon de rendre ça obligatoire, le dressage des chiens. Premièrement, on a fait ça que les laisses sont obligatoires et plus que ça, l'harnais. Et quand vous faites l'investissement de changer d'un collier à un harnais, ça fait toute la différence dans votre contrôle de l'animal. Il faut bien sûr réglementer le nombre d'animaux qu'on peut marcher en même temps parce qu'il y a souvent des jeunes qui ont comme emploi d'offrir des promenades à des chiens. Ils ne peuvent pas avoir plus que, disons, 3 chiens, 4 chiens, gros max. On ne peut pas contrôler autant de chiens.
Mais ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que quand on regarde aux nouvelles, c'est le chien du voisin qui était dans la cour, qui a sauté sur l'enfant de la voisine, puis paf! Comment on se protège de ça?
Premièrement, on ne peut jamais se protéger de tout. Il faut savoir. Ouais. Il faut quand même réaliser, il y a une très belle expression en anglais, « shit happens ». On peut avoir une société parfaite, avoir aucun animal, puis l'animal qui est notre voisin, il saute la clôture et attaque notre enfant. Puis il peut être à 2 pattes et pas 4 pattes.
Puis d'autres personnes vont dire, as-tu vu la quantité d'accidents de voiture? Fait que par le ridicule, on va interdire les voitures, puis il n'y aura plus d'avion, puis bon.
À part les fusils. Il faut interdire les fusils, c'est une autre conversation. Mais par rapport à un chien en soi, c'est un des animaux les plus sociables sur toute la planète entière.
Ça veut dire qu'il va falloir prendre des permis, un permis, mais comme un permis de conduire, un permis en tant qu'humain, où on va passer un examen.
Bingo!
Votre fille qui fait une analyse psychologique pour dire, oui, toi, là, tu peux... Parce que c'est clair qu'on en voit des gens qui transfèrent leur agressivité sur leur chien et qui en font des bêtes
Mais c'est sûr, le même genre de personne qui a abusé son enfant va abuser son chien. Et souvent, si je vois un chien qui est abusé, je vais regarder de plus près pour voir si les enfants dans le foyer sont bien traités. Personne n'a parlé après cet incident terrible dans Montréal-Nord. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants dans ce foyer où il y avait le chien qui avait attaqué un des enfants dans le foyer? Mm-hmm. Tout le monde était abasourdi, choqué. Le chien, il faut tuer le chien. Là, il faut abattre le chien. Mais personne n'a pensé. Mais
drapeau rouge pour les enfants.
Pourquoi les enfants étaient là dans cette maison avec cette personne trafiquante de drogue, la grand-maman supposément, qui était manifestement incapable de protéger. Qui amène un chien que vous ne connaissez pas dans votre foyer et vous allez laisser un chien inconnu avec vos petits-enfants? Ça, c'est impensable. Moi, je vis avec mes petits-enfants, mais quand c'était des bébés, j'étais toujours présente lorsque les chiens étaient là. Mes chiens sont adorables et bien socialisés et sociables. Mais à un moment donné, il faut penser au bon jugement de l'être humain.
Donc, c'est les maîtres qu'il faut dresser et c'est aux maîtres qu'on doit donner une plaque de la ville.
Bingo!
Pour faire allusion à certains passages de votre biographie en terminant, deux quickies. C'était facile.
Aimes-tu ça, là? OK, de quickie. Sous la table?
Non, ça a été partout. Si on se fit dans le livre, il n'y a pas une pièce qui n'a pas été honorée. Même le tribunal.
Chut! Oh my God!
Quand même!
Il y a des choses qui arrivent.
OK, c'est pas grave. OK, dans votre bureau, il y a plein de figurines.
Oui.
Est-ce que c'est parce que vous faites du droit matrimonial et qu'il y a des enfants qui viennent à l'occasion ou que c'est votre côté gay que vous avez plein de jouets?
Il y a beaucoup de réponses. Certes, parce que lorsque les enfants viennent ou des gens viennent, je veux que ça ne soit pas l'environnement stérile.
Ça n'a pas l'air d'un bureau d'avocat, là.
Du tout. De tout partout. Même les fleurs artificielles en soie, il y a des plantes, des vraies plantes partout dans le bureau et plein de jouets.
Il y a des vraies figurines.
Des figures, bien sûr, mais c'est parce que j'adore les histoires de science-fiction. Par exemple, comme on dit Los Muertos Caminandos en français, The Walking Dead, les morts qui se promènent. I don't know, man. The Walking Dead. N'importe
les
qui.
Les
zombies. Vous dites les zombies, va savoir. Mais j'aime toutes sortes de figurines. Je peux avoir Uma Thurman de Kill Bill. Je peux avoir des figurines japonaises. J'ai toutes sortes de figurines de Todd McFarlane parce que lui, comme artiste, il n'y a personne qui est son équivalent. J'ai plein de figurines de Conan the Barbarian par Frank Frazetta dans le temps. J'adore les dessins faits par Stan Kirby à l'époque, Silver Surfer.
Une vraie geek.
Mais j'adore. Le bureau est plein à craquer.
Et on a dit auparavant que vous étiez, puis c'est vous qui le dites, moi je suis une boys, mais une boys très girly, parce qu'on vous suit sur les réseaux sociaux, à chaque fois que vous changez de design sur vos ongles, on a une photo de Playboy, mais là on a des beaux ongles qui sont frais faits, avec un petit pattern, un petit dessin, puis...
Parce que je suis un boys gay, je suppose. Ça doit être ça. Mais j'aime la nouvelle génération. On n'est plus prisonnier de notre sexe. Notre sexe, le génétique, biologique.
Ouais.
Et puis, ça règle un gros conflit qui a toujours existé entre ma fille et moi. Ma fille extrêmement féminine, belle à mourir, cette fille-là. Elle a presque 40 ans. Elle est une pétard. Et elle n'a jamais aimé le fait que je me suis toujours identifiée plus comme un papa, comme maman, plus un mec qu'une fille et tout. Et j'ai dit, mais c'est mon sentiment, dois-je appartenir à un groupe de personnes, en l'occurrence les femmes, si ça me fait rien. Je sens pas ce sentiment, je suis toujours plus à l'aise avec les gars. Puis elle a dit, mais il faut que vous arrêtiez de vous... C'est comme si vous étiez en train de vous insulter vous-même. Pourquoi? Vous n'êtes pas capable d'être femme et forte en même temps. Et là, on l'a réglé depuis que ces histoires transgendres, on dit en français. Je crois que ça libère beaucoup plus de gens qui sont cis et pas trans. Ça vient de la chimie. Ça, c'est très scientifique, dire cis au lieu de trans, je suis fière. Cette idée que personne n'a plus besoin d'être prisonnier de son sexe.
Ouais.
On a le droit de s'affirmer comment ça nous convient, sans une attente sociétale, que pour être avocate, il faut être féminine. Why? Si moi, je veux être plus un boys, ça m'appartient. C'est mon identité. Je ne questionne pas l'identité de quelqu'un qui se prend pour un catholique ou qui pense qu'il est francophone. Vous savez ce que je veux dire, c'est notre appartenance personnelle, ça nous revient à nous.
Il vous reste 2-3 combats à gagner pour
mourir
fermer le dossier.
Heureuse.
Ah non, pas mourir heureuse. Pour après ça, aller faire le petit saut de 4 ans en politique. Je vous verrais tellement politicienne d'un seul mandat qui n'a rien à perdre.
Quoi? Quel mandat?
Municipal.
Pensez municipal? Oui. Mais est-ce que Montréal est assez grande comme ville? New York, c'est une chose. New York, ça, c'est gérer un business.
Quiconque a voyagé un peu à travers le monde sait que Montréal est une très grande ville et une ville qui pourrait rayonner mille fois plus qu'elle ne le rayonne présentement. Et moi, comme je suis un passionné, un amoureux de Montréal, à toutes les fois que je vois un candidat potentiel qui pourrait être mon maire ou ma mère,
Vous lancez la graine? What?
Je lance des graines.
Oh, pas la graine. Oh, mon Dieu.
Sowing the seeds. Okay. Sowing the seeds.
OK. Je suis en train de surchauffer.
Non, ma graine est encore
lance la graine.
Tout va très bien.
Pardon. Le français, là, ça, c'est captivant, mais ça me confond. OK. Pas la graine, les graines.
Exactement.
OK. Les graines.
Ne.
Oh, got it. Oui. OK. J'ai pensé à la politique à ce niveau, en effet, en premier. Et j'ai pensé à ça plus qu'au niveau provincial et fédéral, parce que j'ai toujours senti que vous êtes plus proche de la vie des gens lorsque vous êtes maire ou mairesse d'une municipalité que lorsque vous êtes plus haut.
Ouais.
Parce que ça devient très compliqué. Imaginez si vous êtes Justin Trudeau, allez faire plaisir à des populations qui sont aux antipodes les uns des autres, c'est
Vancouver,
impossible.
Terre-Neuve, le Grand Nord, Toronto, Montréal. Impossible.
Impossible.
Déjà, juste Montréal, l'Est et l'Ouest, ça va être tough. Donc, on peut-tu au moins gérer ça? Anne-France Goldwater, merci beaucoup de vous être déposée ici, vraiment.
Ben, merci de m'avoir accueilli si chaleureusement.
Les gens que je reçois ont tous quelque chose en commun. Ils m'intéressent, fait que moi, je me fais plaisir en les rencontrant. Mais c'est des gens qui, je sais qu'à la fin de la balado, après avoir jasé de sa vie, vont avoir envie de dire le nom du balado haut et fort pour vous aider. Je vous mets un petit cue card qui est juste à côté ici. C'est tellement le fun de je vous souhaite à la maison de dire ces mots-là, de les dire souvent, de les dire fort. Vous voyez pas vos lunettes, hein? Vous avez pas vos lunettes?
Non.
Elle le voit pas, c'est ça? C'est la vie est belle.
Vous le mettez, je pensais que je devais enlever.
Non.
Et puis tourner la carte pour avoir un message. C'est un message mystérieux.
Non, c'est comme le nom du balado, c'est la vie est belle. Les gens que j'invite, c'est des gens qui ont envie de le dire. Puis je trouve que c'est une belle façon de terminer une rencontre.
La vie est belle, comme la pellicule.
Et puis, Chéri, il dit ça comment, lui, la vie est belle?
Comment, où est-ce que Chéri? La vida está bella.
Si, señorita.
Yeah, si, señorita. Puedes llamar mi señora, mi edad. À mon âge, ça veut dire. Je suis plus señora que señorita.
Merci.
Ça m'a fait plaisir.
C'était La vie est belle. À la prochaine.